Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment améliorer la desserte en eau potable de la Régie des Eaux? On en parle dans cette émission avec Monsieur Émile Losambé, directeur de communication AI à la Régie des Eaux. Monsieur Émile Losambé, bonjour.
Bonjour cher ami.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Vous avez des préoccupations, n'hésitez pas, écrivez-nous à service@radiocapi.net. Postez également vos préoccupations sur la page Facebook de l'émission au Capi Service. Merci de votre fidélité à au Capi Service. Polydor Bansunga à la mise en onde, Tati Mapoukoua sur la réalisation, Marcel Ngombo à la coordination. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. L'accès à l'eau potable demeure difficile à Kinshasa ainsi que dans d'autres villes du pays. La Régie des Eaux n'est pas à mesure de répondre aux besoins en eau potable de la population. Elle peine à renouveler son réseau vieux de plus de 50 ans. En conséquence, la pénurie d'eau est quasi permanente. Même en plein cœur de Kinshasa, l'eau ne coule pas tous les jours. La Régie des Eaux recourt à la desserte rationalisée pour satisfaire tant soit peu les besoins en eau potable des uns et des autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la desserte en eau potable, couvrir le besoin de la population en eau potable à Kinshasa ainsi que dans d'autres villes du pays? On en parle aujourd'hui avec notre invité, Monsieur Émile Losambé, directeur de communication AI à la Régie des Eaux. Monsieur Losambé, encore une fois, bonjour.
Bonjour, cher ami.
Alors, quels sont les... Pourquoi la Régie des Eaux n'est pas toujours à mesure de couvrir les besoins en eau potable de la population?
Merci beaucoup. Avant toute chose, permettez-moi, au nom de notre directeur général, M. Clément Biaïn Kachama, et de toutes les autorités de la Régie des Eaux, mais du personnel de la Régie des Eaux également, pour remercier la Radio Okapi pour cette opportunité qu'elle accorde à la Régie des Eaux de manière à communiquer et d'une manière directe avec ses innombrables abonnés, que nous saluons d'ailleurs au passage. Et nous saluons également l'ensemble des auditeurs et auditrices qui nous suivent. Pourquoi on ne peut pas donner de l'eau à tout le monde 24 sur 24? Je l'ai toujours dit, cher Jordi, la Régie des Eaux est là investie dans la mission publique de service d'eau potable à la population par le gouvernement. Cela veut dire qu'il faut des usines, il faut des tuyauteries pour transporter cette eau qui est produite à l'usine et l'amener chez les abonnés. La grande difficulté, c'est quoi? C'est que la Régie des Eaux a 80 ans aujourd'hui. Ce qui fait qu'au départ, il y a des usines qui ont été construites, mais qui devait desservir un certain nombre d'âmes. Par exemple, à Kinshasa, à l'époque, nous devions desservir 5 millions d'âmes à Kinshasa. Mais aujourd'hui, avec les flux migratoires, comme on l'a toujours dit, la démographie a explosé au niveau de Kinshasa. Et aujourd'hui, on parle de plus de 12 millions d'habitants à Kinshasa. Et nos installations n'ont pas évolué. On n'a pas assez de temps. La genèse sur laquelle, c'est que, après 90, lorsque la coopération a été arrêtée, après les événements de Lubumbashi, il faut reconnaître qu'on n'a plus reçu, n'est-ce pas, l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Le gouvernement lui-même a en permanence des problèmes. Parce que, comme vous le savez, le gouvernement consomme au moins 30% de l'eau de la Régie des Eaux, notre chiffre d'affaires. Et il paye difficilement. Aujourd'hui, le gouvernement draine derrière lui plus de 300 milliards de francs congolais qu'il ne paye pas à la régie des eaux. Ce qui fait qu'il faut booster les investissements. Depuis 90, on n'a pas pu le faire. Et aujourd'hui, il n'est pas possible de donner de l'eau que nous avons 550 000 m3 à Kinshasa, la capacité installée. Si les moteurs ne tombent pas en panne, il n'est pas possible de donner cette eau-là à plus de 12 millions d'habitants. À l'époque, avec 5 millions, c'était possible. Voilà pourquoi il y a des choses qu'il faut retenir, cher ami.
Donc le besoin à Kinshasa est de 550 000 m3.
Non, non. C'est-à-dire que les capacités installées depuis lors des usines qui existent, c'est 550 000 m3 que nous pouvons donner par jour. Si nos équipements ne tombent pas en panne, comprenez, 80 ans après, les équipements sont devenus obsolètes.
Mais dans l'ensemble, les besoins à Kinshasa...
À Kinshasa, c'est de l'ordre de 1 million de mètres cubes à la date d'aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a deux choses à faire. La première, c'est que parce que nous devons continuer à vivre, à donner de l'eau à la population, il faut maintenir l'exploitation au niveau optimal.
Il y a un grand déficit.
Oui, de plus de 450 000 m3. Alors, ce qui fait que dans un premier temps, nous luttons chaque jour ici pour que les 550 000 m3 soient disponibilisés et qu'on donne de l'eau à la population. Mais au finish, il faut des solutions idoines. Parce que la population doit accéder radicalement à l'eau potable. C'est ce que recommande le président Fatty, notre président, bien-aimé président. Ce qui fait que le comité de direction de la régie doit avoir compris cela. Et dans sa vision managériale, on a déployé un vaste programme qui fait qu'aujourd'hui, il faut de nouvelles usines à Kinshasa et à travers les provinces. Au moment où nous vous parlons, il y a deux grandes usines qui sont en construction. Il y a l'Embayimbu qui va au finish donner 200 000 m3 par jour. Mais dans un premier temps, un premier module de 35 000 m3 va être terminé et livré, mis en service au 31 décembre 2021, donc l'année prochaine.
L'usine de l'Embayimbo sera opérationnelle l'année prochaine.
Dans un premier module, oui, au 31 décembre 2021. Ce qui fait que les populations d'Njili, Kimbanseke, Kinsenso, Matete vont être décongestionnées. Et même les sites de l'Unikin vont être décongestionnés du réseau qui dessert l'usine d'Njili. Mais il y a aussi à l'Ozone, la partie ouest, l'usine de l'Ozone qui va donner au finish 330 000 m3 jour. Dans un premier temps, il y a un premier module qui est en construction de 110 000 m3. Je crois au premier semestre de l'année 2022, nous pouvons déjà avoir les 110 000 m3. Ce qui fait qu'au finish, d'ici deux ans, que nos compatriotes de Kinshasa se tranquillisent, d'ici deux ans, en tout cas, nous pourrions déjà régler, aérer la desserte à Kinshasa et pourquoi pas, dans trois ans, quatre ans, radicalement, il n'y aura plus de perturbations dans la desserte dans la vie de Kinshasa.
Donc, d'ici deux ans, trois ans.
Je dis deux ans, nous aurons 110 000 m3 de l'ozone et 35 000 m3 de l'Embayimbu, c'est qu'on va aérer la desserte. Donc vraiment, la situation ne sera pas comme celle-ci. Beaucoup de postes de résistance
mais vont disparaître. Mais on ne va pas totalement, couvrir les besoins.
Non, parce qu'on ne va pas atteindre les 1 million de m3. D'ici 5 ans au maximum, on ne parlera plus, n'est-ce pas, de perturbations de la desserte dans la ville de Kinshasa. Mais en attendant, non seulement qu'on doit avoir les 500 000 m3 par jour, les maintenir, mais il y a des quartiers collinaires qu'on ne peut pas envoyer, l'eau ne peut pas arriver. Il y a des quartiers à manque d'eau totale. Voilà pourquoi, avec le fonds issu des programmes de 100 jours du chef de l'État, les autorités de la Régie des Eaux ont disponibilisé un fonds. Ils ont acquis des camions citernes. Il y a aujourd'hui au moins 10 à Kinshasa. Et ces camions-là, on a installé des bornes fontaines dans ces quartiers-là à manque d'eau totale. Et on continue encore à y installer dans la ville de Kinshasa. Il y en a plein. Et les camions citernes desservent de l'eau dans ces bornes de fontaines et la population vient acheter à moins cher de l'eau. Et ça l'air à...
Ces camions citernes ne vont pas desservir seulement ces bornes fontaines. La Régie des Eaux vend aussi de l'eau particulière. On voit ces camions dans les quartiers, chez des particuliers, aller servir de l'eau.
Tout à fait, cher ami. Vous savez que l'eau, c'est la vie. À la Régie des Eaux, nous disons l'eau potable, c'est la longue vie. Ce qui fait que il y a des particuliers qui ont des résidences, des grandes résidences, qui ont énormément besoin de l'eau, et aussi s'inscrivent chaque jour ici. Parce qu'il y a un numéro d'appel qui ils appellent, ils vont là-bas, ils payent, et on envoie un camion leur desservir. Mais au niveau des points là, des bornes fontaines, ça ne perturbe pas les programmes. Chaque jour ici, ces camions remplissent ces bornes fontaines, et la population vient se desservir calmement en eau potable. Ça les évite les affres qu'ils ont connues à l'époque.
Oui.
À se réveiller tard dans la nuit, ou peut-être tôt le matin.
Et l'insécurité, les bandits qui les attaquent.
Tout ça. C'est pour dire que les autorités de la Régie des Eaux sont conscientes des difficultés, surtout des Quinoises. C'est une vaste ville. C'est une mégapole. Les autorités sont conscientes de ça. Et chaque jour ici, ils déploient, en fait, des énergies, de manière à ce que, tant soit peu, que chacun des compatriotes vivant à Kinshasa accède quand même à cette eau potable.
Bien. Et bon, il n'y a pas que Kinshasa qui fait face à des problèmes d'eau. C'est l'ensemble du pays. Alors, en passant, on va accueillir un auditeur, Amoury, qui nous appelle de Bukavu. Amoury, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre préoccupation par rapport à la fourniture en eau potable de la Régie des Eaux?
En tout cas, monsieur le journaliste, ça, c'est une question simple pour un gouvernement qui a une bonne volonté. Mais ça devient un problème par manque de bonne volonté. Presque partout en RDC, la population est en train de pleurer. Par exemple, ici chez nous, pendant la période de la saison sèche, les femmes épuisent de l'eau d'une manière difficile. Et on a la grâce parce que les sœurs du divin maître de la communauté catholique ont conçu un projet dans le sommet Kébolé. Et c'est pour cette raison de voir que quand même ça devient un peu passable. Alors, nous regrettons avec notre gouvernement est en train d'installer les services pour que ce service puisse faire payer la population des taxes illégaux.
Amoury, quelle est la question que vous adressez à l'invité de la Régie des Eaux par rapport à la desserte en eau potable?
En tout cas, que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités, monsieur les journalistes. Parce que si chez nous, nous vivons d'une manière difficile. En tout cas, on ne sait pas si on a un gouvernement très responsable.
Amoury, vous êtes dans quel quartier de Bukavu? Et dites-nous, est-ce que vous avez de l'eau chaque jour ou pas?
Non. Ici chez nous, il n'y a pas de l'eau. Nous épuisons de l'eau dans des puits. Je suis dans le territoire de Chabunda ici. Nous sommes dans la forêt seulement.
Vous n'êtes pas à Bukavu, vous êtes plutôt à Chabunda. D'accord. D'accord. Merci d'avoir appelé. Camara, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous parlons de la desserte en eau potable de la Régie des Eaux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bon, par rapport à la desserte en eau en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa. Bon, la demande en eau dans la ville de Kinshasa, ça estime à 500 000 mètres cubes. Bon, jusque-là, la Régie des Eaux nous livre seulement 50 000 mètres cubes. Donc, il y a un déficit grave. Et puis, moi, j'estime ceci. Il faut que la Régie des Eaux reprenne avec les études de la demande et revoir ses ouvrages. Parce que ses ouvrages sont devenus un peu vétustes. Donc, ça ne répond plus aux besoins actuels. Et puis, de libéraliser les secteurs. Parce que notre budget est moindre. Ça ne pourrait pas répondre aux demandes en fourniture en eau à la population. Donc, il faut libéraliser ces secteurs, appeler les investisseurs pour que les investisseurs prennent ça en charge pour donner de l'eau à la population. Parce que c'est un denrée rare, c'est vital, l'eau c'est la vie. Donc, on ne peut pas jouer avec ces secteurs. C'est ça qui était mon point de vue.
Merci, camarade Kinshasa.
Merci beaucoup, cher ami. Les deux auditeurs, j'ai très bien suivi, je leur remercie. Les fondamentales que j'ai retenues, le point commun, d'abord, ils insistent pour que le gouvernement prenne ses responsabilités. Je vous ai dit, une entreprise à la taille de la Régie des Eaux, un abonné, l'État qui consomme 30% et qui ne paye pas, c'est une catastrophe. Nous savons que notre gouvernement a beaucoup de problèmes. Mais vous savez, l'eau, c'est la vie. Sur le plan social, tout commence par l'eau. Vous connaissez les conditions hygiéniques de la population, la santé de la population. Tout commence par...
Et pourquoi l'État consomme 30% de la production de la Régie des Eaux?
Mais vous savez que l'État prend en charge un certain nombre des institutions. Par exemple, le ministère, les camps militaires, les universités, tout ça.
Qui ne paient pas l'eau.
L'État a accepté de payer ça à leur place. Ils consomment et l'État doit payer. Oui. C'est ça. On a même placé des compteurs partout, comme l'État avait demandé. Mais l'État ne paye pas. Aujourd'hui, nous avons des pompes, de nouvelles pompes que les autorités ont acquises sur le fond de 100 jours, qui doivent être remplacées au captage Ndjili. Quand vous passez par le captage Ndjili, vous trouverez qu'il y a des travaux. Parce que ce captage-là est envahi par des saletés, toujours avec nos services de l'État. Il est interdit de pouvoir construire ou faire des activités à 3 km de part et d'autre, n'est-ce pas? Débarrasser versant des eaux de captage au brut. Des usines de non-captage.
Oui.
La loi existe. Mais les services publics vont même chercher à offrir des parcelles et des concessions, même à côté de la rivière, même à côté de l'usine. Quand vous passez sur le pont, vous devez la saleté, les immondices. Et tout ça, ça rentre dans les pompes. Et les pompes tombent en panne chaque jour. C'est ce qui crée la perturbation dans la ville. Et les autorités ont acquis de nouvelles pompes. On ne peut pas les installer. Ces pompes, au moment
combien de pompes vous venez d'acquérir?
Il y en a 4 pompes. Pour Ndjili, 3 seront installées au captage et une sera installée au refoulement. Mais il y a 3 pompes également pour l'usine de Lukaya, vers Mongafula. Mais au moment où je vous parle, la population doit le savoir. Nous sommes bloqués. Ces pompes sont bloquées en douane au niveau de Matadi. On demande au ministère des Finances de pouvoir nous exonérer cela. Ils ne le font pas jusque maintenant. Donc nous demandons que le gouvernement nous aide. On ne peut pas demander une chose et son contraire. Parce que si nous avons ces pompes aujourd'hui, et si les captages tournent normalement, les 330 000 mètres qui vont être envoyés à l'usine d'Engili, et nous aurons suffisamment
de... On demande à la Régie des Eaux de payer la douane pour ça.
Oui, de payer la douane pour ça. Vous comprenez? Alors que c'est un domaine purement une dimension sociale. C'est pourquoi nous sommes contents que les compatriotes qui ont intervenu interpellent le gouvernement d'assumer sa responsabilité. Vous avez des problèmes, effectivement, nos gouvernements, mais la Régie des Eaux aussi, c'est une dimension importante. On ne demande pas de subventions. Ce sont nos factures de consommation.
Mais si l'État vous doit 30%, alors pourquoi ne pas faire la compensation et puis on laisse entrer vos, la tuyauterie, les pompes?
Tous ces mécanismes sont prévus. Mais comprenez que ça prend du temps. C'est ça le problème, la mise en exécution. Je voudrais également répondre à nos collègues qui sont à Bukavu. Je vous assure qu'à Bukavu, dans la ville de Bukavu, les collègues...
Il a appelé des Chabunda.
Des Chabunda, vous savez, c'est le territoire. De la RDC est trop vaste. Nous avons des programmes qui vont aller jusque là-bas. Mais
les Chabunda, c'est un grand territoire.
Tout à fait. Dans le sud Kivu. Tout à fait. Les études sont là. Mais par exemple, il faut aller, il faut forer... Il faut mettre des usines. Ça demande des millions de francs, des millions de dollars. Prenez les usines de l'Imbaïmbu. C'est 67 millions de dollars. Vous prenez les usines de l'Ozone ici, la première phase. C'est 60 millions de dollars. Si l'État paie cet argent, les 300 millions qu'il détient, la Régie des Eaux peut booster des grands projets. Alors, au niveau de notre ami qui a appelé de Kananga. À Kananga, je rappelle encore pour dire que les problèmes de Kananga, c'est quoi? L'usine qui est installée là-bas a perdu ses 2 décanteurs. Ces décanteurs-là suintent depuis plusieurs années où on ne peut pas traiter l'eau dans ces conditions-là. Mais maintenant, avec nos partenaires de la CEMEC, coréens, chinois de la CEMEC, nous sommes en train de remettre maintenant en service ces décanteurs-là. Mais aujourd'hui, nous sommes bloqués parce que les dernières rencontres que le gouvernement devait débourser dans le cadre des programmes du 100 jours n'est pas décaissé. On ne sait pas payer ces partenaires pour qu'ils terminent ce travail-là. Et aujourd'hui, les travaux qui ont commencé traînent le pas. Et la population de Kananga attend toujours de l'eau potable. Vous comprenez, on ne peut pas demander une chose et son contraire. La Régie des Eaux est disposée. Il faut qu'un des partenaires potentiels, qui est l'État, puisse nous aider, puisse nous appuyer. Vous voyez, en Mbujimayi, je rappelle encore qu'à Kananga, il y a un deuxième projet de 250 000 mètres cubes. Une nouvelle usine que le chef de l'État lui-même, dans sa percée diplomatique, draine les investisseurs dans le pays. Et les investisseurs égyptiens de la société, de la firme El Suedi, ont accepté de venir investir pour construire une grande usine de 250 000 mètres.
Mbujimayi.
À Kananga d'abord.
À Kananga.
Oui,
okay.
Oui. À Mbujimayi, au moment où je vous parle, il y a un vaste programme sur deux lots. Le premier lot, c'est avec la BAD, la Banque africaine de développement. Et le Premier ministre, le 6 février de l'année passée, a lancé les travaux du premier lot et la firme chinoise China Pine est en train de travailler là-dessus. On va agrandir les ouvrages et les réseaux. Et même les installations de production d'eau potable.
Et un instant, monsieur Lesambé. Oui. On va accueillir Oscar de Kinshasa. Oscar, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation par rapport à l'eau de la Régie des Eaux?
Bon, ma préoccupation, c'est que d'abord, je veux commencer par dire que l'eau dans la vie d'une personne, c'est vraiment une chose que la personne ne peut jamais manquer. Je vais d'abord commencer par dire que l'eau potable, d'abord, quand le gouvernement prive d'abord une personne, sa population, quand on prive la population de l'eau. C'est pour dire que cette population tombe toujours malade ou on veut de cette population des morts subites parce que quand il y a des maladies comme la fièvre typhoïde. Permettez-moi d'abord de montrer. Comme le province d'ici, j'étais à Tikapa, j'étais aussi à Kikout. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Les gens vivent de l'eau, donc l'eau de puits et cette eau qui a tant de microbes. De un, cette eau n'est pas traitée. De deux, la distance d'abord. Quand vous voyez quelqu'un, une maman par exemple qui peut avoir 65 ans, 70 ans, mais qui se pénalise d'aller jusqu'à la rivière ou à une distance parfois de 5 km pour puiser de l'eau. Et quand il revient, oh, nous sommes dans un état où il y a un gouvernement. D'abord, c'est une honte pour notre gouvernement. Et de deux, je vais d'abord demander à l'invité. Quand on dit que dans certaines villes, il y a de distributeurs d'eau qui sont perdus, comme je viens de le dire, mais je demande, quand c'est perdu, vous avez par exemple dans une province une population de plus de 10 millions d'habitants. et quand les distributeurs d'eau est abîmé ou est perdu. N'est-ce pas? Donc, on n'a pas de fonds pour acheter un autre, ou soit le pays est dans une misère que l'on ne peut jamais acheter. Je vais m'informer d'abord. Est-ce que la capacité de régie des eaux par province, est-ce qu'on peut donner des pourcentages que sur les régies des eaux, par exemple, de Kinshasa, distribuent de l'eau à tel pourcentage? On peut donc des superficies, hein? La régie des eaux donne de l'eau dans telle province à telle quantité de la population. Et combien de personnes manquent d'abord de l'eau? Parce que j'aime de la précision. Qu'on a d'abord de la précision sur 80 quelques millions d'habitants congolais. Combien ont accès à l'eau potable? Moi, j'ai calculé, si je vois bien, c'est 20%. C'est 20%. Je ne mens pas. Parce que je passais, malgré, je marchais dans 5 provinces sur 26. Mais j'ai vu des réalités. Je suis congolais. Je suis à l'intérieur du pays. Je vois des réalités. Je ne sais pas si on peut me convaincre avec les choses de l'eau potable. Je pense qu'au Congo, il n'y a rien pour l'eau potable.
Merci. Merci Oscar. Merci Oscar de Kinshasa. Nous allons suivre aussi notre confrère Tati Mapoukou était dans un quartier de Ndjili, au quartier 5 dans la commune de Ndjili, où l'eau de la régie des eaux coule mais à faible pression. Je vous invite à écouter les réactions des habitants du quartier 5 de Ndjili.
Okapi.
Biso awa pona po ama mai toza na mwa difficulté ya mai parce que to longola bacho ya milai to tia mikuse to timola mabulu donc sans mabulu wana toza na mai penza te donc a partir ya mabulu ande sala ke tozwa mai mais mai yango tozwa na pasi donc biso toza na ngambu donc na ngambu na biso ya 5 kaka biso nyonso mais bango baza vraiment na difficulté mai makasi donc bakata na mini ngambu na biso pona kozwa mai ou bien ba bimara ba 2h 3h pona kotoka mai. Insécurité zali ba kuluna bana ming ba uta otoka mayo mona le temps okati sa ba kuluna fa kima donc baza vraiment na difficulté ba ninga na biso
tozozo mai na se mais tozozo mai na se za ja microbe o tozo melawana to ko ko sepela jamais ko zo mai na eta wana le temps akati la biso likambo atala likambo wana
c'est depuis temps bozan la situation
c'est depuis ba une année ça fait déjà au moins 3 ans
le balangé za na autorité a régi des eaux en tout cas ba me revoir biso dossier oyo balancer les biso mai partout dans quartier c'est comme normal en plus ba diminuer les biso tarif pour vraiment neti maman langaza maman veuve aza yé mo na lopang pour biso to sito kenda kenda to bala to registre hotel le maman za maman veuve aza yé ka na grande sœur mais a foutre mai 16 000 francs a cela mantaka mingi a ke ata 10 fois c'est kokina régie des eaux pour na ko déclarer mais en tout cas solution zo maraté donc on a sengi na ba konzi na biso ba pesa biso faveur wana ba ti la biso mai normal o ezako ko tie cantine ba funguli mai koti en plus ba voisine na biso ba zo mai facilement ke to timolité mais o funguli robinet mai ebimi.
Voilà, c'était là les réactions des quelques habitants du quartier 5 dans la commune d'Ndjili qui se plaignent des difficultés d'eau, tout ça. Monsieur Losambe, vous avez suivi le premier intervenant ainsi que les réactions des habitants du quartier Ndjili. À vous la parole.
Merci cher ami. Je commence par nos compatriotes du quartier 5 en disant que bientôt, là, comme je vous ai dit, au 31 décembre 2021, ça sera un vieux souvenir pour eux parce qu'ils seront arrosés par l'Imbaïmbu. Mais ce que je note là, ce que j'ai entendu, ils ont enlevé. Ce sont des actes inciviques. Personne n'a le droit d'accéder
à la tuyauterie.
À la tuyauterie, au réseau de la régie des eaux, au bâtiment de la régie des eaux. Ça, d'abord, vous voyez, ils ont enlevé les tuyaux, ils ont fabriqué même les tuyaux, ils sont devenus même les distributeurs. Ils ont des problèmes. Et maintenant, quand les problèmes arrivent, c'est en ce moment-là qu'ils pensent à la régie des eaux. Mais ils ont détruit même les réseaux que la régie des eaux a mis pour bien les desservir. Quand cela ne tient, nous allons envoyer les techniciens là-bas pour voir cette situation-là. Donc, je dis également qu'il y a des quartiers similaires comme ça dans la ville. C'est pourquoi les camions citernes ont été achetés pour ça. Et il y a des bornes frontières, j'insiste, qui sont en train d'être installées dans la ville. De manière à ce qu'en attendant qu'on ait la solution radicale, que les grandes usines soient finalisées de manière à donner l'eau 24 sur 24 heures, en ce moment-là, on n'aura plus besoin de ces bornes fontaines-là. Mais en attendant, il faut des solutions temporaires.
Ces bornes fontaines sont opérationnelles dans quel quartier?
Ils sont opérationnels. Quand vous allez à Selembao, quand vous allez à Kimbanseke, et même vers Mboudi là-bas, et même vers la partie centre, vous trouvez ces bornes fontaines. On avait déjà inauguré, on avait lancé avec les États généraux, le lancement de fonctionnement, oui. L'opérationnalité de ces bornes fontaines.
Il y en a combien en total dans la ville de Kinshasa?
Pour le moment, nous sommes à plus de 25, mais nous continuons. Parce que c'est dans les quartiers en manque d'eau totale, c'est pas partout. Les quartiers qui sont identifiés collinaires où l'eau n'arrive pas par la desserte normale, en ce moment, on est obligé d'installer les bonnes fontaines pour que les camions citernes aillent les alimenter et leur permettre d'accéder facilement, n'est-ce pas, à cette denrée vitale qu'est l'eau potable. Je voudrais également rentrer sur d'autres intervenants. Et ils ont eu raison. Nous devons comprendre que la régie des eaux, la mission qu'il a reçue, c'est de desservir de l'eau potable dans les milieux urbains et périurbains. Ce n'est pas dans les milieux ruraux. Dans les milieux ruraux, il y a un service qui existe au niveau du ministère, n'est-ce pas, du développement rural, l'INSENACHR. C'est eux qui ont ce travail-là. Nous, nous sommes dans les milieux urbains et périurbains. Mais dans ces milieux-là, sur le plan national, nous avoisinons aujourd'hui, avec les efforts des autorités actuelles de la Régie des Eaux, on avoisine au moins 30%, n'est-ce pas, de la desserte. Ce qui est énorme pour un pays en développement comme le nôtre. Donc, les efforts sont consentis. Voilà pourquoi nous interpellons la population. C'est bien beau de demander toujours à la Régie des Eaux des efforts. Faites ceci, faites cela. C'est bien, vous mettez sous ça avec de l'argent. Je peux peut-être vous scandaliser aujourd'hui, mon frère Jordi. À Kinshasa, par exemple, les abonnés détiennent par des verts et privés, hein, plus de 100 000 milliards de francs congolais qui ne payent pas.
Plus de 100 milliards.
Je vous assure, c'est vérifiable. Et la Régie des Eaux a même lancé des facilités. Au moment où nous parlons, il y a l'opération branchement social. Ça veut dire quoi? Vous voulez avoir de l'eau chez vous, vous allez à la Régie des Eaux, vous avez vos documents parcellaires, vous payez seulement 50 dollars. Tout simplement, tous les frais compris dedans. On vient vous mettre de l'eau chez vous. Alors qu'un raccordement d'exploitation, normalement, c'est 200 dollars et plus. Tout ça, c'est pour soutenir les domaines sociaux décrétés par les chefs de l'État. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des efforts qui sont consentis. Les abonnés qui sont coupés, on a donné aussi des facilités. Au moment où nous vous parlons, un abonné qui est coupé, il rentre à la Régie des Eaux. Il voit nos collègues qui sont dans les agences. On se convient, le paiement échelonné. On remet de l'eau. Et même avec les compteurs. Donc vous comprenez que la balle est dans les camps de nos compatriotes.
Mais vous faites payer des pénalités. Quand on a coupé, vous voulez qu'on puisse réinstaller le réseau. Il faut payer des amendes.
Mais ces amendes-là, ça rime à quoi? Quand on a coupé, et quand on doit remettre, il faut acheter des accessoires de ceci. Vous allez les acheter avec quoi, cher ami? Ces amendes, c'est pour acheter ces accessoires-là. C'est pourquoi il faut éviter qu'on vous coupe de l'eau. Vous savez que la Régie des Eaux, quand vous obtenez votre facture, dans le mois, on ne vous demande pas de la payer du coup totalement. Vous pouvez la fractionner dans le mois. Dans le mois, si elle est de 50 000 francs congolais, je paye 10 000 aujourd'hui, demain 5 000. Mais dans le mois, je la termine. Ce sont des facilités qu'on donne, on comprend l'environnement. Mais tout simplement, nos compatriotes doivent comprendre. C'est leur société. Les grands opérateurs en matière de l'eau potable aujourd'hui, c'est la Régie des Eaux. Maintenant, quand ils demandent, j'ai entendu quelqu'un dire Batikaba privé va côté. La Régie des Eaux n'empêche personne de venir travailler dans le domaine.
Quel est le statut de la Régie des Eaux? C'est toujours une société, c'est une société commerciale ou une société de l'État?
Aujourd'hui, c'est une société commerciale, société anonyme, mais dont le capital social est détenu à 100% par l'unique actionnaire qui est l'État congolais. C'est ça le statut actuel de la Régie des Eaux. Ce qui fait que le secteur de loi a été libéralisé. Il y a une loi qui existe. Mmh. Donc tout opérateur économique, privé ou je ne sais pas qui, peut venir aujourd'hui investir en RDC dans le domaine de l'eau potable. C'est-à-dire construire ses usines, avoir son réseau de distribution et même avoir ses abonnés et commencer maintenant à faire son travail. Donc la Régie nous empêche personne.
D'accord. Monsieur Massambé, un instant, on va accueillir Samson de Mbandaké. Ensuite, nous allons accueillir Monsieur Franck Imbembe, le directeur central d'exploitation à la Régie des Eaux. Il sera en ligne dans quelques instants. Le temps d'accueillir Samson de Mbandaké. Samson, bonjour.
Bonjour, la radio Kassi. À mon avis, je vais dire comme ça, monsieur journaliste. Si vous remarquez, dans plusieurs provinces de la RDC, il y a des usines qui sont occupés pour le traitement de l'eau. Mais la plupart des usines sont tombées à panne. Mais nous demandons à la gouvernement, au gouvernement central de financer au gouvernement provincial des moyens alloués pour réparer ces usines et créer d'autres usines dans les villages pour le traitement de l'eau. Prenons par exemple ici à Mbandaka, dans d'autres villages, il n'y a même pas d'usine qui peut traiter de l'eau. Mais la population profite et profite avec l'eau des puits. Cela occasionne, cela expose la population aux maladies hydriques. Messieurs les journalistes, pour question est celle-ci, il n'est pas possible au gouvernement central de financer au gouvernement provincial des moyens pour pouvoir créer d'autres légumes pour le traitement de l'eau. C'est ça un peu ma préoccupation.
Bien, merci. Monsieur Losambe, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je voudrais ajouter un élément. Quelqu'un parle de tarifs. Je rappelle encore, je l'ai dit à plusieurs reprises, la régie des eaux ne fixe pas les tarifs de l'eau. C'est le gouvernement au travers du ministère de l'économie. Donc, vous comprenez une société commerciale, mais on vous impose un tarif. Est-ce que nous sommes une société commerciale? Si les privés arrivent aujourd'hui, l'État n'imposera pas le tarif. Donc, j'ajoute au niveau des compatriotes qui appelaient de Mbandaka. Mmh. C'est vrai, nous avons des zones qu'on appelle des zones à énergie thermique. On a énormément de difficultés. Il faut envoyer les carburants. Vous voyez un peu les carburants, il faut les envoyer par quoi? Par des bateaux, par des avions. Ça nous coûte énormément cher. Ce qui fait qu'en Mbandaka, il y a une grande usine qui existe, mais il faut du carburant. Voilà pourquoi je suis content de son intervention. Il interpelle et les gouverneurs de province. Il y a quand même un gouvernement provincial. Je vous apprends que tous les gouvernements provinciaux, les communes que vous voyez à Kinshasa, ne payent pas l'eau. Ils drainent des IRL de millions de francs congolais. Est-ce que vous trouvez ça normal?
Est-ce qu'au niveau provincial, les gouvernements provinciaux ont des budgets, font des dotations à la Régie des eaux pour son fonctionnement?
Non, la Régie des eaux ne reçoit pas de dotations ni du gouvernement central, ni du gouvernement provincial. Je vous ai dit, ce sont nos abonnés. Tout ce que nous leur demandons, c'est de payer leurs factures. Que ce soit le gouvernement central, je vous ai dit plus de 300 milliards qui drainent, ils ne payent pas. Vous avez les gouvernements provinciaux, les communes, toutes ces entités communales ne payent pas de l'eau, c'est des millions. Vous comprenez ça? Donc, il faut que la population le sache. Nous travaillons dans des conditions difficiles. Il faut qu'on aide la Régie des eaux. Vous savez, la Régie des eaux a une dimension sociale très importante. On peut tout manquer aujourd'hui dans la vie, mais on ne peut pas manquer de l'eau. C'est ce que nous faisons au quotidien malgré nos difficultés. Pour que la population, malgré ses grands déficits de plus de 450 000 mètres par exemple à Kinshasa, que la population ne manque pas de l'eau. Que chacun a oublié qu'il ait tant soit payé cette eau-là. Mais on doit aider la Régie des eaux. De l'autre côté, l'État détient autant d'argent, la population aussi autant d'argent, et vous voulez demander des miracles à la Régie des eaux. C'est impossible. Mais malgré cela,
les factures que la population, que les abonnés payent régulièrement, là, est-ce que ça ne vous permet pas de fonctionner?
Je vous dis que l'État fixe le tarif de la Régie des eaux en tenant compte du pouvoir d'achat de la population. Je peux vous surprendre que la Régie des eaux, pour les abonnés domestiques, nous facturons en dessous du prix de revient. Quelle est cette entreprise commerciale qui va facturer en dessous du prix de revient? Vous voyez les 1 mètre cube là? Les 1 mètre cube là, ils coûtent même moins que la bouteille d'eau là que l'on vend à 1000 francs, ainsi de suite, tout ça. Mais c'est une catastrophe. Mais malgré cela, nous demandons au gouvernement et à la population, en tant qu'abonnés de la Régie des eaux, de faire quand même un effort, de comprendre que l'eau, c'est la vie et l'eau potable, c'est la longue vie. Nous devons continuer à donner de l'eau potable à la population. Il faut soutenir cette entreprise. Il faut soutenir les autorités de la Régie des eaux. Je vous dis, on ne peut pas opérer de miracles. Ce que la Régie des eaux opère au quotidien, ce sont des miracles. Quand vous regardez les conditions dans lesquelles les collègues qui sont dans les usines, aujourd'hui, 80 ans après, je vous ai dit, nos équipements sont devenus obsolètes. Il y en a qui passent même 24 heures, 48 heures, ils rentrent pas à la maison parce qu'il faut réparer ces machines-là de telle manière qu'ils soient en service et que la population...
Des machines qui ont vieilli.
Mais 80 ans, même le corps humain, il devient quoi? C'est tout le temps qu'il est à l'hôpital et c'est des balbaganzo à la pharmacie. C'est la même chose avec les équipements.
On va accueillir Benjamin Amboko de Kisangani. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Quelle est votre préoccupation par rapport à la desserte en eau potable de la Régie des eaux?
En tout cas, ma préoccupation n'est rien d'autre que nous, population, nous souffrons vraiment. En tout cas, j'ai apprécié la thématique du jour, la raison pour laquelle je voulais juste intervenir. Que ici à Kisangani, nous sommes presque dans une partie, peut-être nous pouvons l'appeler île, de l'autre côté Tchopo, de l'autre côté fleuve Congo, mais nous n'avons pas l'eau potable. Et presque toute la population de Kisangani souffre. Il y a presque 70% qui manque l'eau potable. Nous débrouillons pour chercher de l'eau. Nous, en tout cas, la plupart de la population boit de l'eau depuis. Ils même trouvaient même les médicaments pour y mettre, pour que peut-être tuer certains insectes, soit les bilharzioses, comme vous les appelez, si je ne m'abuse pas. En tout cas, nous souffrons beaucoup, messieurs les journalistes.
Bien, vous êtes à Kisangani, dans quelle commune?
Je suis dans la commune Kabondo, juste aux environs des châteaux d'eau d'ailleurs. Mais nous, population, aux environs du château d'eau, nous n'avons même pas de l'eau à boire. Même les régies des eaux de l'autre côté, il n'en en a pas.
Et là, à Kabundo, l'eau coule combien de fois par semaine à Kabundo?
L'eau coule presque tous les jours, mais il y a des parcelles cibles. Ce n'est pas toute la population qui a bénéficié.
Comment ça, il y a seulement certains abonnés qui doivent en bénéficier et pas d'autres?
Bon, je ne sais pas si comment le gouvernement est en train de préparer ce soit programmé, mais ça date de longtemps que la population ne trouve pas, ne bénéficie pas de l'eau potable, et rien que des eaux du puits. Le puits, nous, si tu n'as pas le puits dans ta parcelle, tu ne peux pas boire de l'eau. Il y a aussi, bien sûr, on avait fabriqué des bornes fontaines lesquels les gens nient qu'il n'y a pas vraiment surtout des médicaments. C'est la raison pour laquelle les gens boivent toujours les eaux des puits.
Les eaux des puits.
Les eaux des puits.
Merci.
Les puits,
oui. Ouais. On va accueillir Boukassa depuis Moueneditou. Boukassa, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation par rapport à l'eau potable de la régie des eaux?
Bon, par rapport, d'abord, sur place ici à Moueneditou, la régie des eaux est quasiment inexistante. Parce que l'eau est envoyée soit deux fois par semaine, trois.
Monsieur Lossambé, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Rapidement, pour notre ami, notre compatriote de Moueneditou, comme je vous ai dit, il y a des stations à énergie thermique. Donc, on ne peut pas travailler 24 heures sur 24 heures. C'est tout cela dépend. Et nous dépendons de la quantité de gasoil que nous avons. Donc, on fait le planning pour que peut-être par semaine qu'on envoie deux ou trois jours, comme il est dit là. Mais tout dépend de la quantité de gasoil qu'on a. Si on a suffisamment de. C'est pourquoi, si les autorités qui sont là, il y a les administrateurs du territoire et le gouverneur, peuvent donner du carburant à la régie des eaux, mais 24 sur 24 ont donné de l'eau à la population. Moi, je suis arrivé à plusieurs reprises à Moueneditou. Je connais l'usine qui est à Moueneditou, une grande usine. Qui
peut à Moueneditou.
Mais oui, qui peut desservir toute la population, 24 heures sur 24 heures. Mais là, on est buté à un problème, n'est-ce pas, de l'énergie thermique. Il faut du carburant. On n'a pas le carburant pour faire fonctionner les équipements en permanence. Au niveau d'Mbandaka, je vous ai dit, c'est la même chose. À Kisangani, je ne suis pas d'accord avec les compatriotes. Parce que Kisangani, c'est l'une des villes qui a l'une des grandes usines. Vous comprenez? Kisangani a une très grande usine. Et il y a suffisamment de l'eau pour envoyer à la population. Les problèmes sur lesquels, quand il dit que ça coule chez les uns, pas les autres. Mais chacun doit avoir son abonnement, son raccordement. S'il n'a pas de l'eau, il n'a qu'à aller à la régie des eaux, demander les conditions et avoir un raccordement. On lui amène de l'eau chez lui, à la maison. C'est ce que nous faisons. Donc on ne peut pas aujourd'hui aller donner de l'eau à tout le monde comme ça, sans qu'il ait souscrit une police d'abonnement, un raccordement chez nous. À Kisangani, c'est une grande usine qui existe. Il y a suffisamment de l'eau pour donner à la population. Donc je ne suis pas d'accord avec lui.
Voilà. Vous n'êtes pas d'accord avec lui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour que la régie des eaux soit en mesure de fournir à la population? D'abord, à Kinshasa, vous avez dit qu'il y aura d'ici deux ans, deux usines qui seront opérationnelles et la population pourra bénéficier de l'eau. Mais si aujourd'hui l'État congolais arrive à payer toutes ces factures, 30% de la consommation, est-ce que cela vous aidera à améliorer la desserte en eau potable?
Oui, je précise d'abord que dans deux ans, il y a le premier module de l'Emba Imbu, 35 000 mètres qui seront opérationnels, et le premier module de l'Ozone dans l'Ozone de 110 000 mètres cubes qui seront opérationnels. Ça va aérer la desserte. On va sentir cela. Si nous avons la chance de récupérer les pompes qui sont arrivées à Matadi, qui sont sous douane, pour lesquelles on se bat pour qu'on donne les exonérations, et nous demandons au ministère des Finances de pouvoir nous aider dans ce sens-là, vous allez voir que si on installe ces pompes au captage Ndjili, et que l'usine peut tourner 24 sur 24 sans panne, vous allez voir qu'il y aura suffisamment de l'eau à Kinshasa. Ça va aérer également les postes de résistance. Ce qui fait que, au finish, si l'usine de l'Ozone se termine, on aura 330 000 mètres cubes. Celui de l'Emba Imbu, 200 000 mètres cubes. Celui de Ngombaloutendele qui va aussi être lancé, 125 000 mètres cubes. Nous allons couvrir le déficit de 450 000 mètres cubes. Ce qui fait qu'au finish, d'ici 3, 4 ans ou 5 ans au maximum, on ne parlera plus de déficit de la desserte en eau potable dans la ville de Kinshasa. Donc, nos compatriotes n'ont qu'à se tranquilliser. Je demande surtout à la population quinoise de continuer à faire confiance à leur société. Nous sommes là pour eux. Les problèmes qu'ils posent chaque jour ici, ce sont des problèmes qui sont connus. C'est un problème de la quantité d'eau qu'on ne peut pas donner à tout le monde 24 heures sur 24 heures. La ville est devenue trop vaste avec plus de 12 millions d'habitants. Il nous faut 1 million de mètres cubes par jour. Nous n'avons que 550 000 mètres cubes s'il n'y a pas de panne. Au niveau de nos
usines. Ou des fuites peut-être au niveau du réseau.
Les fuites encore, on les contient parce qu'il y a des services qui sont 24 sur 24 heures en train de chasser et de pourchasser les fuites. Nous avons des chasseurs de fuites qui sont sur le réseau. Là, il n'y a pas de problème. Mais c'est plutôt les machines qui doivent envoyer de l'eau, capter de l'eau brute dans les sources pour envoyer dans les usines. S'ils n'envoient pas suffisamment, eh bien, on n'a pas les
services. Et l'usine d'Enjili dessert au moins combien de communes sur les 24?
Elle dessert 16 communes sur 24. c'est les unes qui a la plus grande influence dans la desserte dans la ville de Kinshasa. Parce qu'elle intervient à 60% dans la desserte dans la ville. Donc il suffit tout simplement que les usines de Jules soient perturbées dans son fonctionnement. Automatiquement, toute la ville a des problèmes. Voilà pourquoi nous voulons que les nouvelles pompes là...
Qui sont déjà arrivées.
Qui sont déjà arrivées, mais qu'on nous bloque avec la douane au niveau de Matadi. Là, nous interpellons le gouvernement. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Aider la région. Vous avez nos 300 milliards, vous ne nous payez pas. Maintenant, nous avons des pompes qui doivent être dédouanées pour qu'on installe au captage et qu'on aère la desserte dans la ville.
Vous les bloquez.
Oui. Alors, qu'est-ce qu'on veut finalement? Voilà pourquoi nous interpellons le chef de l'État. C'est le premier citoyen congolais. Et celui qui a la responsabilité de tous les Congolais. Les Kinois également. Nous demandons également au gouverneur de la ville de pouvoir aussi bouger au niveau du gouvernement central. Ça lui concerne, lui, en tant que le premier citoyen de la ville. De telle manière qu'on nous libère ces pompes-là. De telle manière qu'on les installe et qu'aujourd'hui, l'usine d'Engili ait sa capacité nominale de 330 000 mètres cubes. Nous aurons suffisamment de l'eau dans la ville et en ce moment-là, je crois que on va élaguer beaucoup de postes de résistance qui font tourmenter la population aujourd'hui. C'est ça la vérité, il n'y en a pas une.
Voilà. Une autre. Bien, nous parlons de comment améliorer la desserte en eau potable. Nous allons suivre un autre élément sur la difficulté d'accès à l'eau potable au quartier Talangaï de la commune de Nansélé. Eh bien, la population du Talangaï n'a pas accès à l'eau potable. Les femmes et enfants parcourent des distances pour aller puiser de l'eau des sources non aménagées. C'est un reportage de Tati Mapuku.
Okapi Service. À Kinshasa, en province et à travers le pays, découvrez vos problèmes grâce au reportage service. Okapi.
De l'eau potable est une denrée rare au quartier Talangaï, dans la commune d'Elantiele. Il suffit de sillonner quelques avenues pour s'en rendre compte. En longueur de journée, des femmes et des enfants parcourent plusieurs kilomètres pour puiser de l'eau dans les rivières et dans les sources d'eau appelées Nkelo. L'eau puisée est utilisée comme boisson et pour toutes les activités ménagères. L'eau des pluies constitue aussi une source importante pour ces ménages. Sur les maisons, un dispositif est soigneusement installé pour canaliser l'eau des pluies dans un récipient.
Voilà, c'était là les réactions de quelques habitants du quartier Talangaï de la commune de Lancele qui se plaignent. Il n'y a pas d'eau, la vie est difficile de l'autre côté parce qu'il n'y a pas d'eau. Les gens doivent c'est un parcours de combattants pour avoir de l'eau. Certains se réveillent la nuit avec tous les risques et l'insécurité pour trouver cette denrée rare de l'eau potable. Et puis ils réclament aussi d'avoir les macadam qu'on puisse aménager le quartier. Monsieur Losambe, vous avez suivi les préoccupations de vos compatriotes. À vous la parole.
Merci beaucoup, chers compatriotes. Je l'ai dit, les 35 000 mètres cubes qui nous seront livrés le premier module au 31 décembre 2021, la commune d'Enselé également figure parmi les bénéficiaires. Et j'ajoute également que au finish, il y aura une grande usine qui sera construite à Maluku. Parce que vous savez, à Maluku, on avait à l'époque construit une petite usine qui devait alimenter tout simplement la grande société, qui était deux sociétés qui étaient Siforzal, à l'époque, aujourd'hui Siforco, et la Sociedaire. Vous voyez? Alors,
maintenant. C'était pas pour les besoins de la population.
La population n'en existait même pas. C'est après que la population a commencé à construire tout autour de ces deux grandes sociétés-là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que la démographie a pris de l'ampleur à Maluku. Parce qu'il y a même des gens qui cuisent de trop loin qui vont construire à Maluku. Ce qui fait qu'au regard des besoins actuels, il nous faut une autre grande usine. Et cette usine va desservir même la commune d'Enselé. Vous savez, notre pays, c'est très compliqué. Il était prévu à l'époque, vous voyez les quartiers aux Eucalyptus, on devait construire une grande usine là-bas. Et à l'époque, avant le pillage des 91, s'il vous plaît, cher ami, nous avions là-bas tous les équipements avec les Japonais. Les matériels, les pompes, tout était sur le site où on devait commencer les travaux, les pierres sont... On a tout pillé. Non seulement ça, aujourd'hui quand vous allez sur ce site-là, mais il est aujourd'hui anarchiquement occupé. Même la station que vous voyez là, Total, Elf, tout ça là-bas,
oui.
C'est la concession de la régie des eaux.
Angini.
Oui, même quand vous voyez les cercles, disons, de divertissement là, je ne sais pas comment on l'appelle encore, c'est intérêt de la régie des eaux qu'on a ravi. Abusivement. Et aujourd'hui, ce terrain-là est en train d'être ravi par n'importe qui avec la complicité des services publics de l'État. Alors, comment voulez-vous que la régie des eaux puisse donner de l'eau à la population? Où est-ce que nous allons construire maintenant cette usine-là, si aujourd'hui nous avons le moyen? Tous les terrains sont envahis. C'est ça le plus grand problème.
Bien, donc, on va accueillir Bernard de Kinshasa. Bonjour Bernard.
Bonjour monsieur le journaliste.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la desserte en eau potable?
Merci beaucoup monsieur le journaliste de la parole. L'eau, comme vous le savez, a des aspects. Il y a l'aspect positif et l'aspect négatif. Quand il faut parler de l'aspect positif, c'est la vie. Ça, tout le monde le sait que l'eau, c'est la vie. Mais de l'autre côté, l'eau, c'est aussi une source de propagation de maladies lorsque celle-ci n'est pas potable. Ces dernières années, en RDC, ici chez nous, il se pose un vrai problème par rapport à l'eau potable. Parce que même quand vous vous rendez vous-même... à la régie des eaux, à la direction centrale, vous remarquerez que tous les paramètres de traitement d'eau potable sont respectés. Mais alors, il se pose un vrai problème par rapport à la distribution de l'eau de la régie, de la direction centrale vers les périphéries. Il y a les tuyaux qui amènent, qui conduisent l'eau vers les périphéries, qui sont déjà datés. Ça fait bien des temps, je ne sais pas, c'est depuis Belge, ça fait bien des temps. Ces tuyaux sont abandonnés, il n'y a pas un entretien, il n'y a pas les réhabilitations, il n'y a pas les renouvellements de tuyaux. Vous remarquerez qu'il y a même d'autres endroits où il y a déjà des perforations de ces tuyaux-là. Et lorsque l'eau coule et autour de ces tuyaux, vous trouverez que l'eau surnage et avec les déchets, les tout, ça entre là et vers maintenant les endroits périphériques. Et nous qui sommes là, qui recevons cette eau-là, nous ne buvons pas l'eau qui est censée être potable dès le point de distribution. Donc, nous recevons l'eau qui est déjà impropre à la consommation. Il serait vraiment important pour que les autorités de la régie des eaux puissent revoir ce problème-là. Qu'il faut même revoir l'équipe de suivi, de réhabilitation, d'entretien. Il faut bien le faire parce que aujourd'hui, le développement, on ne fait pas appel seulement à des grandes choses. Tout commence par des petites choses.
D'accord,
par exemple,
merci.
Les réhabilitations.
D'accord, merci Bernard qui plaide pour la réhabilitation du réseau des tuyauteries de la régie des eaux, pour la plupart qui sont déjà usagées. James Mwabilo, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Bonjour.
James, quelle est votre préoccupation?
Je voulais intervenir dans le cadre de ce que vous avez donné comme thématique du jour. Il y a un problème de desserte en eau potable. Alors que l'État, le gouvernement congolais, devrait prendre ses responsabilités. Ce problème de desserte en eau potable ne sera résolu que lorsque le gouvernement, comme je vous dis, aura à prendre ses responsabilités. Les villes et les villages de la RDC, ils sont vraiment pleins de cours d'eau qui sont en train de chômer ou d'être mal utilisés par la population. Alors que dans certains autres sites,
comme vous allez peut-être en Zambie, en Tanzanie, en Angola, en dehors du pays, vous allez trouver que dès qu'il y a un seul cours d'eau à côté d'une ville ou d'un village, c'est déjà une richesse pour ces pays-là. Pourquoi? Parce qu'ils vont prendre cette eau et l'utiliser de manière à servir et l'État et la population de cet État-là.
James, quelle est la question que vous adressez à l'invité, M. Lusambe, directeur de la communication à la Régie des eaux?
Je voudrais lui demander si serait possible que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités en construisant de nouveaux points de captage et de traitement d'eau qui peuvent desservir la population et on mettra fin à ces problèmes de serre en eau potable.
Merci James Mwabilo de Lubumbashi. Monsieur Lusambe.
Merci beaucoup, cher ami. Je commence par la qualité de l'eau. Hein. Le compatriote Bernard a beaucoup épilogué là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? La Régie des eaux traite son eau conformément aux normes de potabilité édictées par l'OMS sur le plan international. Parce que ces normes-là sont standards internationaux.
Et les produits sont là pour les traitements.
C'est les mêmes produits que nous utilisons.
Oui.
Et c'est les mêmes normes, les mêmes processus. Ce que je voudrais dire ici de très important, c'est qu'à la fin de traitement, avant d'envoyer l'eau au réseau, prenant compte qu'en cours de route, une tuyauterie peut être infectée et tout, la Régie des eaux augmente une quantité supplémentaire de chlore, que nous appelons le chlore résiduel, le chlore libre. C'est comme un gendarme, un garde du corps qui accompagne l'eau jusque dans les verres de l'abonné. Donc, de ce point de vue-là, nos chers abonnés ne peuvent pas, ils n'ont qu'à se tranquilliser. Je l'ai toujours dit, n'ayez pas peur de boire de l'eau de la Régie des eaux. Nos enfants qui vont à l'école, ils boivent quoi, mon bon sang? Ils boivent de l'eau de la Régie des eaux, ils sont tranquilles, ils n'ont pas de problème. Vous voyez ça? Donc, il y a le chlore libre qui accompagne l'eau jusque dans les verres de l'abonné. Au-delà de ça, notre eau est contrôlée chaque heure dans les usines. Pendant les processus de traitement, chacun nous contrôle à chaque étape. Mmh. Et même au réseau, vous verrez que nos laboratoires circulent 24 heures sur 24.
Bernard a déploré la tuyauterie qui a vieilli.
Oui, ça, on ne peut pas le nier. Après 80 ans, il y a des coins où la tuyauterie est devenue vétuste. Il faut réhabiliter, c'est des millions de dollars. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nos services techniques ont un planning de ce qu'on appelle de purge des réseaux. Ils utilisent des produits pour purger ces réseaux-là. Ce travail se fait régulièrement. On a réhabilité beaucoup de quartiers, beaucoup de communes de la ville de Kinshasa. Nous sommes passés de la tuyauterie en acier à la tuyauterie, n'est-ce pas, en PVC, de manière à éviter dans l'avenir, n'est-ce pas, ces corrosions-là, ces entartages-là.
Monsieur Lusambe, on est arrivé à la fin de cette émission. On retient, pour la ville province de Kinshasa, dans 2 ans, la situation, il y aura une certaine aération.
Exactement. Avec l'Embaïmbou, son premier module de 35 000 m3
et
l'ozone, 110 000 m3. Ça, c'est clair.
Bien. Alors, vous avez, la Régie des eaux vient d'acquérir des pompes qui sont à Matadi, bloquées, parce qu'il faut payer la douane.
Parce qu'il faut payer la douane, alors qu'au moment, on devait nous exonérer. C'est pourquoi nous interpellons le gouvernement, qui est notre gouvernement, de tout faire pour qu'on donne ces exonérations à la Régie des eaux, et que ces pompes viennent parce que le travail de nettoyage, n'est-ce pas, de toutes les saletés au niveau des captages de l'usine de Gili sont en train d'être faits pour accueillir ces nouvelles pompes-là.
Donc, si on installait ces nouvelles pompes, il y en a combien au total?
Nous avons 4 pompes.
Okay.
Il y a 3 au captage et une qui sera au refoulement, et 3 qui sont pour Lukaya. Si on installe ces pompes-là, on aura suffisamment de l'eau brute à l'usine. L'usine va envoyer les 300 000 mètres cubes dans le réseau et on aura suffisamment de l'eau. On va élaguer beaucoup de quartiers qui nous font des problèmes aujourd'hui à manque d'eau au niveau de la ville de Kinshasa. Je ne dis pas qu'en installant ces pompes-là, le déficit va partir. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis qu'on a la chance d'avoir au quotidien les 550 000 mètres cubes installés qui peuvent maintenant aérer.
Parce qu'aujourd'hui, comme la SNEL fait recours à au délestage, la Régie des eaux également recours à ce que vous appelez la desserte rationalisée. Ça veut dire, si on donne dans un quartier, dans une commune aujourd'hui, demain vous n'aurez pas l'eau, on donne dans une autre commune.
Non, nous on ne fait pas les désastres, cher ami. Qu'est-ce que nous avons fait? Vous savez que l'eau, c'est la vie. L'eau potable, c'est la longue vie. C'est ce que la Régie des eaux donne, l'eau potable. Il accompagne les compatriotes à avoir la longue vie. Et avec Covid ici, on ne peut pas faire en sorte que les uns aient de l'eau et que les autres n'en ont pas.
D'accord.
C'est une catastrophe. C'est pourquoi on s'arrange pour rationaliser le peu d'eau pour tous. Voilà ce que nous faisons.
Bien, merci Monsieur Emile Lusambe. Je rappelle que vous êtes directeur de communication à
Mais est-ce que je peux ajouter quelque chose, cher ami?
Un peu de mots. Un peu de mots,
c'est de remercier nos abonnés qui nous soutiennent, qui ne nous laissent pas. Mais de remercier aussi l'État congolais qui est disposé, qui fasse quelque chose. Mais aussi féliciter les autorités de l'âge. Il faut le reconnaître. Qu'ils font énormément
avec d'énormes difficultés. Il faut le féliciter. Les travailleurs de la régie des eaux. Et félicitons aussi la radio Capi qui fait un grand travail.
Hein? Merci, c'est monsieur.
Merci beaucoup.
Merci, monsieur Lossambé, fidèles auditeurs. Nous mettons un terme à cette première partie de l'émission Capi Service. On va suivre les informations et on se retrouve juste après pour parler de la prévention des maladies cardiovasculaires en République démocratique du Congo. Restez avec nous.
Au Capi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Au Capi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Au
Capi. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Au Capi Service, fidèles auditeurs. Nous sommes heureux de vous servir, de vous recevoir dans cette émission. Dans cette deuxième partie de ce magazine, nous allons parler de la prévention des maladies cardiovasculaires. Vous savez, les maladies cardiovasculaires sont une cause majeure d'incapacité et des décès prématurés dans le monde entier, d'après l'OMS. Elles peuvent affecter tout le monde et à n'importe quel âge. Il suffit d'adopter une bonne hygiène de vie pour prévenir cette maladie. Alors comment prévenir? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour prévenir les maladies cardiovasculaires? Nous avons en ligne Dr Yves Loubenga, spécialiste en cardiologie et en médecine interne. Dr Yves, bonjour.
Bonjour Jody.
Bienvenue dans cette émission. D'abord, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'on entend par maladie cardiovasculaire?
Merci Jody pour la question et je salue tous les auditeurs de Radio Capi. En fait, dans le jargon commun, on parle de maladie cardiovasculaire lorsqu'on se retrouve en face de l'ensemble de pathologies cardiaques, cérébrales, dont le soubassement est l'athérosclérose. L'athérosclérose, j'explique, est en fait le soubassement histopathologique de toutes les maladies cardiovasculaires. Cette athérosclérose qui est en fait un processus qui s'inscrit dans le temps est favorisée par certains éléments que nous appelons les facteurs de risque cardiovasculaire. Et enfin, pour faire simple, c'est quoi un facteur de risque cardiovasculaire? Eh bien, un facteur de risque cardiovasculaire, c'est l'ensemble de phénomènes physiologiques comme l'âge, comme le sexe, phénomènes pathologiques comme l'hypertension artérielle, comme le diabète, l'ensemble de certaines habitudes de vie comme la consommation de tabac ou d'alcool qui concourent à la survenue d'événements cardiovasculaires. En somme, le vocable maladie cardiovasculaire n'est que la conséquence de la conjonction de plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire.
Voilà. Et qu'est-ce qui explique le fait qu'actuellement, je ne sais pas la proportion ou la proportion de la maladie dans notre pays, vous allez peut-être nous en dire un peu plus comment se présente le tableau, la situation des maladies cardiovasculaires aujourd'hui en République démocratique du Congo.
En fait, il y a une ou deux décennies, il existait un gros écart dans la prévalence entre les maladies infectieuses, qui sont les maladies les plus communes en milieu subsaharien, donc en voie de développement, et les maladies cardiovasculaires, qui étaient en fait l'apanage des pays nantis, des pays du Nord. Actuellement, les prévalences semblent s'équivaloir, c'est-à-dire que nous sommes à peu près à une prévalence de 15 à 25% de maladies cardiovasculaires dans notre milieu. Et ces pathologies cardiovasculaires qui sont en train d'émerger de plus en plus battent en fait très vite, vont battre les maladies infectieuses. Voilà un peu.
Voilà. Et quels sont pouvez-vous reprendre les facteurs qui favorisent ces maladies cardiovasculaires? C'est bien que vous avez déjà cité quelques facteurs. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Alors, les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires, je répète ce que j'ai dit, peuvent être des éléments physiologiques. Les éléments physiologiques, ce sont des éléments normaux, comme le sexe. L'on sait par exemple qu'avant 50 ans, les hommes sont plus enclins à développer des maladies cardiovasculaires que ne le sont les femmes. On sait par exemple que l'âge est un facteur de risque cardiovasculaire, dans ce sens que plus on prend de l'âge, plus on a tendance à développer des maladies cardiovasculaires. On en verra donc plus chez des personnes qui ont plus de 50 ans que chez les plus jeunes, âgés de moins de 40 ans. Il peut s'agir aussi d'éléments pathologiques. L'hypertension artérielle, le diabète sucré, l'hypercholestérolémie, l'obésité sont des pathologies qui concourent à la survenue d'événements cardiovasculaires. Un sujet obèse aura plus tendance, par exemple, à développer un infarctus du myocarde, donc une crise cardiaque ou un AVC, qu'un sujet qui est plutôt sur le plan de l'indice de masse corporelle en proportion normale. Il existe aussi des styles de vie. La sédentarité, par exemple, prédispose à développer des maladies cardiovasculaires que ne le ferait une activité physique régulière. C'est le cas aussi de la consommation régulière et excessive de tabac. Donc un fumeur a plus tendance à développer des complications cardiovasculaires que un non-fumeur. C'est aussi le cas de consommateurs abusifs d'alcool qui auront plus tendance à développer des maladies cardiovasculaires que ceux qui sont plutôt sobres et donc qui ne consomment pas d'alcool.
Bien. Alors, quelles sont ces différentes maladies cardiovasculaires qu'on rencontre actuellement beaucoup dans notre pays?
Alors, les pathologies cardiovasculaires que nous rencontrons, je vais plutôt utiliser le jargon qui est très médical, en fait. On parle de pathologies cardiovasculaires, moi je vais parler d'événements cardiovasculaires. C'est notamment les accidents vasculaires cérébraux. On sait tous que l'AVC est une complication des maladies cardiovasculaires ou des facteurs de risque cardiovasculaire et constitue aujourd'hui une des pathologies cérébrales les plus courantes dans notre milieu, aussi bien chez les sujets moyennement âgés que les sujets très âgés. Il s'agit aussi de l'infarctus du myocarde. L'infarctus du myocarde, c'est ce qu'on appelle communément dans notre milieu la crise cardiaque. Sur le plan cardiovasculaire, nous en avons de plusieurs sous-types. Nous disons donc les syndromes coronaires, en vocable médical, qui peuvent être aigus ou chroniques, mais dont le terminus est soit un décès par mort subite, soit une évolution inexorable vers ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque. Voilà. Enfin, il existe aussi finalement ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Certains vocables ou certains auteurs l'appellent carrément le cancer du cœur parce que les études ont montré que lorsqu'on compare par exemple un patient qui fait une insuffisance cardiaque, qui veut simplement dire une incapacité du cœur à produire un débit sanguin suffisant pour mener convenablement sa vie. Et donc, quand on développe, on pose le diagnostic d'insuffisance cardiaque chez un sujet et le diagnostic de cancer de la prostate chez un autre, l'on sait que l'insuffisant cardiaque mourra plus tôt que le patient qui est atteint d'un adénocarcinome de la prostate. Donc, c'est pour ça que certains auteurs, pour en peindre le caractère très, très mortel et péjoratif, parlent carrément de cancer du cœur quand il s'agit de l'insuffisance cardiaque. C'est aussi donc une complication cardiovasculaire très courante. On a tellement de patients en consultation qui consultent pour ça. Voilà, ça fait partie donc des événements cardiovasculaires majeurs, les plus courants et les plus mortels.
Radio Okapi vous propose désormais ses magazines thématiques hebdomadaires du lundi au vendredi à 12h30 heure de Kinshasa. Retrouvez Maïcha Bora chaque lundi, Droit et citoyenneté mardi, Parité et famille mercredi, Écho du développement jeudi, 100% jeunes vendredi à 12h30 heure de Kinshasa. Sachez également que les magazines étoiles vous est proposé désormais samedi à 19h05 et lundi à 15h30. Identité culturelle, samedi à 8h30 et dimanche à 11h05. Grande interview, samedi à 10h05 et dimanche à 9h05, heure de Kinshasa. Prenez également rendez-vous avec les magazines des Nations Unies tous les dimanches à 8h30 et 19h05, heure de Kinshasa. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Merci d'écouter le magazine Okapi Service. Aujourd'hui, nous parlons de la prévention des maladies cardiovasculaires. Nous allons faire un tour dans la ville de Goma où notre consoeur Sifa Maguru a réalisé un micro-baladeur sur les maladies cardiovasculaires. Écoutez les points de vue des uns et des autres à ces sujets.
Bonjour, moi c'est Dr Rodriguez Kisando, je suis médecin au centre d'analyse biomédicale à référence ici dans la ville de Goma. Je vais revenir sur quelques conseils pour prévenir les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire les maladies qui touchent le cœur et les vaisseaux et les artères également. Le premier conseil que je peux donner à la population, c'est d'arrêter de fumer. Il est très bien démontré que l'effet de fumer entraîne une hypertension artérielle et notamment les artères se durcissent et par après, la personne va devenir hypertendue et avec toutes les conséquences sur le cœur. Alors, l'autre conseil, c'est surveiller son poids. Et la meilleure façon de surveiller son poids, c'est de faire des sports. Ça vous permet de contrôler votre poids. Et nous parlons de l'obésité lorsque l'indice de masse corporelle est supérieur à 30. Et donc, l'obésité également va entraîner des maladies. C'est un facteur qui favorise les maladies cardiovasculaires, hein, et avec toutes les complications qui peuvent se venir plus tard, comme une crise cardiaque, une infarctus du myocarde. Et également, il faut lutter contre la sédentarité et c'est un peu de faire aussi les exercices physiques. Il ne faut pas rester assis toute la journée et c'est un peu de marcher quand vous avez le temps, dans la mesure du possible. Si vous devez monter, par exemple, dans un bâtiment qui a 3 niveaux ou 4 étages, et c'est un peu de prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. C'est une façon aussi de faire le sport. Également, il faut arriver pour les diabétiques, il faut arriver à soigner son diabète. Il est dit que le diabète favorise également les maladies cardiovasculaires parce que le diabète a un impact sur les artères du corps et donc cela va entraîner aussi des maladies cardiovasculaires et plus tard des complications qui peuvent vous amener à la mort. Il faut également gérer son stress parce que il est dit que le stress entraîne une augmentation de la tension artérielle et donc c'est important d'être relâché, c'est important. Et la meilleure façon de gérer le stress, c'est de renforcer sa personnalité. Cela signifie quoi? C'est arriver à comprendre, chaque fois un événement qui n'est pas bon se présente, un événement malheureux se présente, arriver à comprendre cet événement passera et je serai au-dessus de cet événement et demain il y aura d'autres événements meilleurs. Parce qu'il est dit en psychiatrie qu'on ne peut pas prévenir un problème. Et comme on ne peut pas prévenir un problème, la meilleure façon c'est de renforcer sa personnalité pour dire que chaque fois qu'il y aura un événement qui n'est pas bon, ça va passer et vous arriverez à vous relever de cette situation.
C'est Dr Rachel Maguru Kajuru, médecin généraliste à l'hôpital provincial du Nord Kivu. Premièrement, nous devons agir, nous devons savoir reconnaître les signes d'alarme. Quand est-ce que nous devons nous suspecter qu'il y a une insuffisance cardiaque? Si vous avez des douleurs dans les thorax, si vous vous fatiguez au moindre effort de marche, si vous n'arrivez pas à bien respirer quand vous êtes en position couchée, ou si vous avez les membres inférieurs ou les jambes qui gonflent, ce sont des signes d'alarme qui doivent vous pousser à aller consulter à l'hôpital. La plus grande cause d'insuffisance cardiaque ou des maladies cardiaques, c'est l'hypertension. Alors, il faut agir sur les causes qui influent sur cette hypertension. Ces causes peuvent être l'âge. Toute personne âgée de plus de 45 ans doit normalement avoir 2 consultations par an pour se faire dépister. Les personnes très obèses, c'est-à-dire qui ont un grand poids ou bien qui pèsent beaucoup, sont aussi sujets à risque pour les maladies cardiaques. Bien sûr, il y a d'autres qui ont leur constitution propre qui peut faire qu'il y ait ces maladies cardiaques. Pour prévenir ces maladies, nous devons agir sur notre alimentation, c'est-à-dire nous devons manger sainement, éviter une alimentation trop grasse pour éviter d'avoir beaucoup de cholestérol dans nos vaisseaux. Nous devons avoir de l'exercice physique suffisante, c'est-à-dire ne pas avoir une vie trop sédentaire. Nous devons avoir dans notre hygiène de vie éviter l'excès de tabac, du thé, du café et de l'alcool. Nous devons nous reposer suffisamment, c'est-à-dire éviter le stress et les surménages.
Okapi, Okapi. Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions,
Suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Merci Sifa Maguru de Goma pour ces micro-baladeurs. Disons non, c'était pas un micro-baladeur, c'était beaucoup plus les avis des experts ou les conseils des médecins, des praticiens par rapport aux maladies cardiovasculaires. Docteur Yves Lubenga, vous avez suivi votre réaction.
Alors, je dis, ouais, j'ai suivi, c'était plutôt intéressant. Je vais résumer un peu ce que mes confrères ont déclaré tout à l'heure. Les facteurs des risques cardiovasculaires sont de deux ordres. Pour paraphraser un de mes maîtres, il y a des facteurs des risques cardiovasculaires qui sont modifiables et il y en a qui ne le sont pas. L'action que nous menons dans la gestion des facteurs des risques cardiovasculaires concerne essentiellement les facteurs de risque modifiables. Quand on parle de prévention cardiovasculaire, l'on agit sur des facteurs de risque cardiovasculaire que l'on peut impacter par certaines mesures. Je cite, par exemple, l'obésité. L'on sait que l'obésité est génératrice d'athérosclérose et partant des complications cardiovasculaires. Agir sur l'obésité veut simplement dire observer un régime alimentaire hypocalorique, un régime alimentaire pauvre en graisse, un régime alimentaire méditerranéen, riche en légumes et en fruits. Agir sur la pression artérielle, qui est un facteur des risques cardiovasculaires modifiable, veut simplement dire réduire la consommation de sel. On sait par exemple que quand on réduit la consommation de sel à moins de 6 grammes par 24 heures, le patient, au bout de 3 mois, perd au moins 5 mm de mercure sur sa pression artérielle systolique et 3 sur la pression artérielle diastolique. C'est notamment le diabète sucré qui est un facteur de risque cardiovasculaire, mais on peut modifier les valeurs glycémiques en agissant d'abord sur le régime alimentaire qui doit être donc pauvre en sucre à index glycémique élevé, en agissant aussi, lorsque cela s'avère nécessaire, sur la glycémie par des moyens pharmacologiques. Donc on recourt notamment à des médicaments. Donc, en résumé, ce que mes collègues voulaient dire, c'est que la prévention cardiovasculaire concerne essentiellement les facteurs de risque cardiovasculaire modifiables et l'attitude que l'on doit adopter dans notre train de vie quotidien, c'est justement d'essayer de lutter contre la promotion de ces facteurs de risque cardiovasculaire modifiables.
Bien. Voilà. Docteur, on va accueillir Valentin de Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. C'est Valentin, il faut au Kassai.
Bien. Quelle est votre préoccupation par rapport aux maladies cardiovasculaires?
Oui, merci pour cette thématique du jour. À mon avis, pour prévenir les maladies cardiovasculaires, premièrement, c'est le respect au régime alimentaire. Toute personne qui s'est déjà habituée aux histoires non congelées, de respecter son organisme. Donc aujourd'hui, nous avons un peu les gens qui sont à la base de créer ces maladies dans leur organisme. Parce que vous avez des moyens, vous devez changer les conditions de vie, ainsi de suite, utiliser une histoire qui n'a jamais utilisé au départ. C'est ce qui anime vraiment les gens aujourd'hui à avoir ces maladies. C'est ça, au moins, je conseille un peu les gens au respect des régimes, de respecter l'organisme dès le départ comme il a été. Merci un peu.
Bien, merci Valentin de Kananga. César, vous êtes à Ariwara. Bonjour.
Bonjour, alors, Radio Okapi. C'est sur la province d'Ariwara.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux maladies cardiovasculaires?
Merci pour la parole accordée. Alors, je disais, pour essayer de prévenir toutes ces maladies, il fallait, comme vous l'avez dit là-bas sur la page Facebook, il fallait combattre la consommation de l'alcool et des tabacs. Malheureusement, la police et l'armée, qui sont d'abord censés combattre tout ça, s'appliquent à premier lieu. Alors, s'ils le font ainsi, maintenant, quel sera le sort de la population? N'est-ce pas, la population va suivre ces mauvais exemples de leur part? Alors, concernant maintenant la mauvaise alimentation, quel est l'état à la population qui met une vie difficile? Il y a des gens qui ne disposent pas de moyens. Comment les aider? Qu'est-ce que l'État fait à eux, concrètement? Merci beaucoup.
Bien, merci. Nous avons James Mwabilu en ligne depuis Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à l'invité et bonjour à tous les auditeurs de la radio de la paix.
Bien, quelle est votre préoccupation par rapport aux maladies cardiovasculaires?
Par rapport aux maladies cardiovasculaires, je voudrais dire que selon la thématique que vous avez lancée sur notre page, je voudrais dire que ces maladies sont aujourd'hui la cause, donc par excellence, des morts des personnes de tout âge. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de vieux qui meurent de maladies cardiovasculaires. C'est vrai que tout le monde y est atteint. Alors je voudrais dire que pour éviter ces maladies, comme vous avez déjà énoncé, certains facteurs qui favorisent la survenue de ces maladies, entre autres le surpoids, l'alimentation, parce que l'alcool et le tabac, tout ça. Je voudrais signaler que quand on parle de l'alimentation, certaines personnes peuvent croire que c'est juste un déficit alimentaire qui puisse créer cette maladie. Alors que ça, ce n'est même pas une grande cause de ces maladies. La plus grande cause alimentaire de ces maladies, c'est la suralimentation.
Corneille,
le désordre dans le manger.
Corneille, nous avons un spécialiste en ligne. Quelle est votre préoccupation? C'est quoi la question que vous l'adressez? Et lui, il vous dira quelles sont les vraies causes.
Oui, je voudrais dire que la question que je voudrais poser à l'invité,
oui,
est-ce que le service sanitaire national ne peut-il pas créer une structure qui puisse commencer à conseiller les gens, même dans leur foyer? Parce que quand on attend seulement quand on sera malade pour aller être conseillé par les médecins ou les personnels soignants à l'hôpital. Vous voyez que ce n'est pas tout le monde qui aura la maladie. Et là, on va commencer à attendre que la personne tombe d'abord malade pour aller recevoir les conseils. Alors qu'avant de tomber malade, si la personne était mieux informée avant,
oui,
il pourrait au moins se tenir à l'ordre, manger suffisamment, manger avec tout le respect pour ne pas exagérer et tomber dans des cas de maladies cardiovasculaires. Et alors que même les maladies cardiovasculaires, quand vous y tombez déjà, beaucoup, ce sont des maladies qui sont difficilement remédiables, je vous dis, comme l'hypertension, comme l'obésité, tout ça. Donc quand vous y tombez déjà, c'est difficile que vous puissiez guérir totalement. Ne peut-il pas créer une structure?
D'accord.
Soit une structure qui sera en train de conseiller les gens même d'aller au foyer pour qu'on puisse manger normalement.
Bon, merci. D'après vous, ces maladies sont liées à l'alimentation particulière. Corneille, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Ah, bonjour, monsieur.
C'est Jody. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Quelle est la question que vous adressez à l'invité par rapport aux maladies cardiovasculaires?
Oui, Jody, c'est Corneille Pembo. Jody, c'est ceci. Pour l'invité, soit prévenir de cette maladie, il a fallu d'abord calmer soit la consommation d'alcool. C'est ce que j'ai intervenu. Et puis, nous demandons à notre État congolais, parce que cette maladie est venue juste par manque de moyens. C'est-à-dire, nous demandons à notre État congolais de former d'abord les relais communautaires qui peuvent nous aider à nous donner l'éducation sanitaire avec tous les outils. C'est-à-dire, quand je citais les outils, je citais les films, les théâtres, les images pouvant nous aider à ce qu'elle ne soit pas à tout moment contaminée dans cette maladie. Je dis, je vous remercie.
Merci Corneille de Kananga. Docteur Yves Lubenga, vous avez suivi les différentes préoccupations et avis des auditeurs. À vous la parole.
Merci Jody. Je pense que les préoccupations des différents auditeurs sont pertinentes. Dans la plupart des cas, chacun a étalé en fait la cause à son niveau des maladies cardiovasculaires, mais j'aimerais intervenir sur une préoccupation qui est revenue à deux reprises, c'est la part de l'État. En fait, il existe dans ce pays un programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Ce programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires, qui est dirigé par l'éminent docteur Limbolé, a pour, entre autres missions, la prévention cardiovasculaire. Et la prévention cardiovasculaire, pour la réaliser à grande échelle, devrait nécessiter un gros financement. En fait, comment ça se passerait? Eh bien, plutôt que d'avoir, par exemple, à la télé une publicité d'une boisson alcoolisée, on aurait plutôt deux ou trois lignes qui diraient pour éviter de voir émerger les maladies cardiovasculaires, prière de faire 30 minutes d'activité physique, au moins 5 fois sur 7 par semaine. On aurait, par exemple, plutôt que d'avoir une promotion de certains types d'aliments, on dirait, par exemple, allez, plutôt consommer des fruits et des légumes. En fait, ça se fait à cette échelle-là.
Ça, ça s'appelle le niveau, la prévention primaire ou la prévention même primordiale. Alors, chez ceux qui ont déjà développé certains facteurs de risque cardiovasculaire, c'est en consultation que ça se passerait. Le médecin prendrait son temps. En plus de mettre en route un traitement, il lui expliquerait comment éviter l'émergence des autres facteurs de risque cardiovasculaire, parce que finalement, pour qu'il y ait un événement cardiovasculaire, il faut souvent, en tout cas dans la plupart de cas, la conjonction de deux ou trois facteurs de risque cardiovasculaire. À ce moment-là, le risque cardiovasculaire est majoré et la personne développe un événement cardiovasculaire. Il existe même chez les patients, lorsque nous évaluons le risque cardiovasculaire global en consultation et que ce dernier est élevé, nous mettons d'emblée des médicaments en prévention, notamment ce que tout le monde prend à tour de bras qui s'appelle l'aspirine. On l'appelle d'ailleurs communément l'aspirine junior. En fait, c'est un médicament que l'on donne à des patients qui sont à risque cardiovasculaire élevé ou très élevé, justement pour que, s'ils sont à risque cardiovasculaire élevé, ils ne développent pas un événement cardiovasculaire. Et s'ils sont à risque cardiovasculaire très élevé, c'est-à-dire qu'ils ont déjà développé un événement cardiovasculaire, eh ben qu'ils n'en fassent pas un autre. Donc, globalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Il y a la participation de l'État, mais il y a surtout la participation du personnel médical lors des consultations communes, consultations de diabétologie, consultations d'hypertensiologie, consultations des maladies rénales, consultations de cardiologie. Il faut toujours qu'il y ait qu'on ait tendance à rappeler aux gens ce qu'ils doivent faire, mais surtout ce qu'ils ne doivent pas faire pour ne pas évoluer inexorablement vers un événement cardiovasculaire qui peut être fatal.
Et Corneille a même proposé, si possible, de créer une structure de communication qui va prodiguer des conseils ou bien mettre recourir au relais communautaire pour une éducation sanitaire intensive.
Absolument. Ça, c'est vraiment l'apanage du programme national de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Parce qu'en pour avoir le personnel capable dans ce grand pays de prodiguer ce genre de conseils, il faut une formation. Donc ce programme doit être financièrement fort et matériellement équipé pour former des personnes qui seront capables de porter ce message à grande échelle et à large échelle, de manière à ce que nous puissions observer une réduction de l'incidence de ces pathologies.
Bien. Et James Mwabilu pense que c'est la plupart des cas des maladies cardiovasculaires sont liées à l'alimentation. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à cela?
Alors, la plupart des facteurs de risque cardiovasculaire ont comme sous-bassement le volet génétique, l'hérédité. Ce sous-bassement génétique transmet donc à l'individu la susceptibilité de voir émerger une pathologie cardiovasculaire. Et donc, quand on a cette susceptibilité-là, et que, par ailleurs, on n'observe pas des mesures qui sont qui ont donc comme vocation à empêcher l'émergence de ces facteurs de risque cardiovasculaire, eh ben, la génétique va croiser le mode de vie et les deux vont engendrer un événement cardiovasculaire ou une maladie cardiovasculaire. Donc, globalement, l'alimentation, lorsqu'elle est de très mauvaise qualité, c'est-à-dire on mange trop gras, on mange trop sucré, on mange trop salé, eh ben, lorsque cela se fait par un individu qui a une susceptibilité de développer des maladies cardiovasculaires, eh ben, il va voir émerger une hypertension artérielle, il va voir émerger une obésité ou un diabète. Donc, le lit sur lequel repose finalement l'athérosclérose reste la génétique, mais lorsqu'on y associe un style de vie plutôt entre guillemets mauvais, eh ben on va voir émerger ces pathologies-là. Donc l'alimentation est une chose, mais il n'y a pas que ça. La consommation d'alcool, la consommation de tabac, ainsi de suite.
Alors, dans notre pays aujourd'hui, docteur, on peut estimer à quel pourcentage le nombre des maladies cardiovasculaires?
Pourcentage, c'est difficile parce qu'en fait, il n'existe pas à l'échelle nationale d'études qui ont évaluer la prévalence de toutes les maladies cardiovasculaires. Par contre, pour certaines maladies comme l'hypertension, on sait par exemple que c'est de l'ordre de à 30% sur Kinshasa, par exemple. Ça, ce sont des études qui ont été menées récemment. pour des pathologies comme le diabète, on sait qu'on est entre 10 et 20% sur Kinshasa. Donc, l'incidence est forte. Mais s'agissant des événements cardiovasculaires comme les AVC, comme les infarctus du myocarde ou les insuffisances cardiaques, nous n'avons pas à l'échelle locale des registres qui permettent de dire quelle en est la prévalence à juste titre. Mais il existe des études qui sont en cours, qui vont pouvoir répondre à ces questions d'ici l'année prochaine.
Bien. Nous allons accueillir un auditeur, Marius de Colosi. Nous parlons aujourd'hui de la prévention des maladies cardiovasculaires. Des questions et préoccupations, eh bien, écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service.
Radio Okapi.
Okapi.
Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi.
Bien, Marius, vous êtes à Colosi. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour aussi à l'invité qui se trouve au plateau.
Quelle est votre préoccupation par rapport à la, par rapport aux maladies cardiovasculaires?
Merci, monsieur Jody, de m'avoir associé à la thématique du jour. En tout cas, voici ma contribution concernant la maladie cardiovasculaire. L'État congolais devrait toujours sensibiliser la population sur les réalités invalidantes et mortelles qu'entraînent les facteurs de risque cardiovasculaire. En tout cas, c'est ça surtout ce que j'avais à contribuer sur la thématique des jours. Quand voici concernant, je prends quand même un exemple concernant la maladie la COVID-19. Vous voyez que tout le monde s'est impliqué. Ici chez nous, en aigle de Congo, le cas de décès est quand même un peu valable. Alors l'État devrait toujours sensibiliser, puisque c'est une maladie qui a été tellement négligée en tout cas. Beaucoup de gens ne parviennent même pas à comprendre qu'est-ce que la maladie cardiovasculaire, qu'elle devrait nous faire pour prendre des précautions, qu'elle devrait nous faire afin que nous soyons guéris. Alors quant à la population aussi, et ils ont aussi une grande responsabilité aussi de tenir compte encore de leur état de santé, puisque Dieu nous a donné un seul corps pour ce monde ici.
Merci.
Alors la population aussi devrait toujours faire le tout possible de lutter contre cette maladie.
D'accord. Merci. Merci Marius de Colosi. Achille, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, merci. Daniel Pachama. Bonjour, chers visiteurs de la Radio de la Paix.
Quelle est votre préoccupation par rapport aux maladies cardiovasculaires?
Par rapport aux maladies cardiovasculaires, en principe, ce sont des maladies génétiques. Donc, il faut juste que la population sache que ces maladies ont des faits. Il y a des facteurs tels que l'alcoolisme, le tabagisme, certains aliments consommés par la population.
Oui, tout cela. Oui, le médecin a déjà parlé de tout cela. Alors, quelle est la question que vous adressez à l'invité, au docteur qui est là?
Oui, moi, la question que je pose au docteur, c'est de savoir qu'il est censé réellement sensibiliser la population sur la prévention de certaines maladies, parce que par le savoir, il y a certains facteurs que les corps soignants ou les personnels eux-mêmes sont victimes. Alors, qui sont censés réellement sensibiliser la population sur ces points de maladie?
Bien, merci. Bernard, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Quelle est votre question par rapport aux maladies cardiovasculaires?
Merci beaucoup de la parole, monsieur le journaliste. Les maladies cardiovasculaires aujourd'hui sont incriminées parmi les causes de décès dans le monde, tout comme ici, chez nous, dans notre pays, RDC. Nous avons compris que les gens s'alimentent très mal, en dehors d'autres facteurs qui peuvent aussi déclencher ces maladies. Il y a vraiment les maladies, donc la consommation abusive de viandes rouges qui font que l'individu puisse accumuler les graisses, les mauvais cholestérol, qui peuvent obstruer les artères et puis favoriser les dépôts accrus de plaques d'athérum, ce qui peut amener aux hypertensions artérielles et à la longue, ça peut même induire à l'arrêt cardiaque. Donc il y a bien de choses, ou soit de principes, de conditions que la population devait mettre en compte. Dans les pays développés, nous remarquons aujourd'hui un ménage ne peut pas manquer un consultant nutritionniste, lequel peut aider le ménage à équilibrer les rations, à équilibrer l'alimentation et à modérer la consommation de ce qui est mauvais ou soit ce qui induit à beaucoup de graisses qui amènent à des maladies cardiovasculaires. Mais ici chez nous, cet aspect-là n'est pas du tout pris en compte par la population congolaise. Les ménages s'alimentent comme ils veulent, les gens mangent abusivement ce qu'ils veulent. Donc il n'y a pas vraiment le respect et la modération de ce qui est la cause de ces maladies-là.
Bien, si merci Bernard. Merci Bernard qui est nutritionniste de Kinshasa. Docteur, vous avez suivi, il incrimine beaucoup plus la consommation de la viande rouge qui apporte les mauvais cholestérol et qui peut faire bloquer les artères et voilà, et vite il y a l'hypertension ou une crise cardiaque qui survient. Docteur Lubenga.
Oui, merci Jody. Effectivement, l'ami nutritionniste n'a pas tort s'agissant de la consommation de viande rouge, beaucoup plus parce qu'en plus, enfin, parce que cette viande rouge est pourvoyeuse d'une augmentation dans le sang d'une substance qui s'appelle l'acide urique, qui détermine une maladie qui s'appelle la goutte, donc qui fait mal dans les articulations, mais les douleurs que ça entraîne dans les articulations ne valent rien comparativement aux petits dégâts qui existent au niveau des artères et mis en commun avec les dégâts entraînés par les autres facteurs de risque cardiovasculaires entraînent donc la formation des plaques d'athérome, rétrécissement des artères et donc toutes les complications dont on a parlé précédemment. J'aimerais aussi rebondir sur ce que nous a dit notre auditeur de Colvézi. Eh ben, la sensibilisation de l'État a été très efficace pour la maladie à COVID-19, pathologie du reste, qui a fait trembler le monde entier, mais qui, dans notre environnement, est beaucoup, beaucoup moins fatale que ne le sont les pathologies cardiovasculaires. Donc, je pense que si on s'inspire de ce modèle-là pour lutter contre les pathologies, un financement plus efficient sera alloué à ceux qui s'occupent de la prévention et de la prise en charge efficiente des maladies cardiovasculaires, de manière à ce que nous agissions plus en prévention. La prévention est beaucoup plus importante, tout simplement parce que lorsqu'un événement cardiovasculaire se produit, s'il n'est pas fatal, il laisse des stigmates. Des stigmates pouvant être malheureusement indélébiles. Voilà un peu mon commentaire quant aux interventions précédentes.
Il y a un auditeur qui a dit que généralement les maladies cardiovasculaires deviennent plus tard des maladies chroniques. Est-ce vrai, docteur?
Maladie cardiovasculaire devenir une maladie chronique, il y a plusieurs types hein, que j'avais évoqués précédemment. Un accident vasculaire cérébral, par exemple, un AVC, ça s'appelle accident vasculaire cérébral, c'est un événement aigu. L'AVC n'est pas une pathologie chronique. Par contre, elle entraîne cette pathologie, des séquelles qui sont des stigmates qui demeureront, dans la plupart de cas, indélébiles. Quand on parle d'insuffisance cardiaque, en revanche, là, il s'agit d'une maladie qui sera chronique, que l'on gardera probablement toute sa vie parce qu'on a eu affaire à un infarctus du myocarde, donc une crise cardiaque, et ça évoluera selon des poussées aiguës et de phases de consolidation en fonction de comment le patient est soigné. Mais dans tous les cas, la survenue d'un événement cardiovasculaire reste quand même l'élément à éviter chez toute personne.
Bien, nous avons en ligne Christian de Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, la Radio Okapi.
Nous parlons de la prévention des maladies cardiovasculaires. Quelle est votre question?
Oui, moi je pense rapidement quelques facteurs déclencheurs des maladies cardiovasculaires cités sont pourtant la nourriture des Congolais, lesquels l'alcool, le tabac, la mauvaise alimentation, obésité, voire l'absence d'activité physique sont en quelque sorte ce que nous avalons chaque jour, c'est-à-dire ce que nous enregistrons. Pour ce faire, la conscience de l'homme congolais est indispensable pour lui sauver de ce danger qui est malheureusement minimisé par les autres. Pourtant, c'est facile à éviter si l'on est conscient. L'éducation des parents doit nécessairement s'impliquer pour sauver les jeunes alcoolisés, les initier à faire des activités physiques, mais également les parents doivent être des exemplaires. des modèles. Faire, par exemple, le régime pour bien-être. Pour son bien-être, s'il vous plaît, n'est pas un problème pour quelqu'un qui se soucie de sa santé. Et cela nous aidera à éviter l'obésité. Pour la mauvaise alimentation, moi je pense, je ne peux pas en tout cas condamner les Congolais. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas le même moyen pécuniaire. Nous n'avons pas la même liberté financière pour se faire nourrir de la même façon. Alors, il faut lutter contre le chômage au premier lieu. Aider tout Congolais à retrouver au moins quelque chose à manger. D'où le gouvernement congolais est mieux placé pour améliorer cela. Chercher des voies et moyens pour défier ou escalader cette problématique. Ce qui fait souffrir sa population, qu'elle soit aisée sur le plan alimentaire, l'intérêt de la collectivité n'a pas d'impact au Congo. Pourquoi ? Pourquoi ? Au contraire, c'est l'individualité qui est garantie. Et cela fait de nos acteurs politiques des hommes sans cœur. Pendant que la population souffre, elle est devenue orpheline. Alors, eux-mêmes vivent aisément, par exemple, ici à Kinshasa.
Bien, merci. Merci, Christian. Merci, Christian. On va pas entrer dans la politique. On va accueillir Martin de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous parlons des maladies cardiovasculaires. Quelle est votre question?
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir accordé la parole. Votre sujet a été très intéressant. C'est pourquoi j'avais même laissé un commentaire. Pour prévenir les maladies cardiovasculaires qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui dans la population congolaise, il fallait peut-être limiter la consommation d'abord de viande rouge, parce que les viandes rouges ont un taux élevé de cholestérol. Et aussi, nous devons manger bio. Bio, pourquoi? Parce que aujourd'hui, la population congolaise en général, puis particulièrement à Kinshasa ici, les gens privilégient les produits industrialisés. Cela veut dire que nous voulons toujours manger les choses qui viennent ailleurs, pendant que nous avons nos propres aliments locaux. Si nous mangeons les aliments locaux, vous verrez que les fruits et légumes, il n'y a pas un taux accéléré de cholestérol. C'est pourquoi je suis en train d'insister qu'il fallait peut-être que dans nos ménages, nous puissions vraiment faire l'alimentation de base des fruits et légumes, monsieur le journaliste.
Bien, merci beaucoup. Martin de Kinshasa. Docteur Lubenga, vous avez la parole.
Oui, merci Jody. Je disais tout à l'heure, au début de cette émission, que les pathologies cardiovasculaires étaient plus prévalentes dans les pays du Nord, les pays nantis. Donc, il faut comprendre que il ne s'agit pas d'un... L'alimentation modèle nanti, c'est une alimentation qui est grasse. L'alimentation classique qui se fait dans les pays pauvres, c'est une alimentation qui l'est beaucoup moins. Ce qui se passe, c'est que en milieu subsaharien, on est en mode en train de copier en fait ce qui se passe en milieu occidental, s'agissant du style de vie, s'agissant du style alimentaire. Il y a qu'à voir tout ce qui se passe dans les restos, dans les fast-foods de Kinshasa. Tout le monde a quelque chose de gras à midi avec une boisson sucrée. C'est vraiment la mode et on est surpris après qu'il y ait des événements cardiovasculaires dans les milieux moyennement jeunes. Je pense que idéalement, nous devrons rentrer dans ce que nous faisions de mieux, c'est-à-dire consommer ce que nous avons chez nous. Légumes, fruits, en temps ordinaire, ça ne devrait pas coûter très cher ici. Ce qui coûte cher, c'est ce que nous achetons dans les fast-foods tous les matins ou pendant les heures de midi et qui nous entraîne tous les événements cardiovasculaires en passant par l'obésité et les troubles de lipides. Voilà.
Oui, docteur, est-ce qu'il est important, par exemple, de recourir au dépistage, peut-être une fois l'an, des maladies cardiovasculaires?
Il est important lorsqu'on a dépassé un certain âge, nous disons après 40 ans chez l'homme ou après 45 ans chez la femme, de réaliser un check-up cardiovasculaire. Ce check-up va permettre d'établir le risque cardiovasculaire que court un individu. C'est quoi en fait le risque cardiovasculaire global? Le risque cardiovasculaire global se définit comme la possibilité qu'a un individu de développer un événement cardiovasculaire fatal dans les 10 ans. Donc ce risque cardiovasculaire est calculé par des indices que nous obtenons sur base des examens que nous demandons aux patients qui viennent pour un check-up.
Je donne un exemple simple. Si la personne vient pour un check-up, elle a 45 ans et que son risque cardiovasculaire est élevé, c'est-à-dire qu'il a plus de 10% de chances de développer dans 10 ans un événement cardiovasculaire qui va le tuer, à ce moment-là, la prise en charge sera plus vigoureuse qu'elle ne le serait chez un individu qui a moins de 1% de chance de développer un événement cardiovasculaire fatal dans les 10 ans. C'est la raison pour laquelle les consultations sans qu'on ne soit malade, qui s'appellent des check-up, existent justement pour nous permettre à nous, praticiens, d'établir le risque cardiovasculaire global d'un individu, d'amorcer une thérapeutique en amont. Ça s'appelle de la prévention primaire, de manière à ce que le sujet ne puisse pas très vite se retrouver de vie à trépas, tout simplement parce que il a été pris en charge précocement et efficacement.
Bien. Alors, il y a par exemple des gens qui ont perdu la vie devant la télévision au cours d'un match de football. Une vive émotion lorsque son équipe, l'équipe qui soutient vient de marquer un but ou bien vient de perdre et la personne, vous la voyez s'affaisser et puis c'est fini.
Oui, effectivement, ça existe, hein, ce genre de mort subite dans des circonstances de stress. Ça existe aussi, hein, ce genre de décès donc brutaux pendant une activité physique importante. Généralement, il y a plusieurs facteurs ou explications physiopathologiques qui peuvent nous permettre de comprendre ce qui s'est passé. Les décès seront soit d'origine cérébrovasculaire, une personne a une petite malformation cérébrale.
Oui.
Pendant un stress lors d'un match de football, il y a une grosse élévation de sa pression artérielle qui va donc entraîner l'éclatement d'un anévrisme cérébral préexistant. Et cet anévrisme préexistant qui va éclater, il y aura un saignement massif dans le cerveau et la personne peut mourir dans les minutes qui suivent. Un autre cas de figure, ce serait un individu qui soumis à un stress important, cet individu ayant déjà des facteurs de risque cardiovasculaire, développe un authentique infarctus du myocarde avec comme corollaire un trouble de rythme ventriculaire brutal, fatal. Donc il va s'affaisser et il va mourir. Pourquoi il va mourir celui-là? Eh ben, ce sera parce que il y aura personne qui n'aura fait ce qu'on appelle de la réanimation cardio-respiratoire. Parce que là aussi, on peut récupérer ces personnes-là avant qu'elles n'arrivent à l'hôpital. Ça s'appelle de la réanimation cardio-respiratoire pré-hospitalière. Ça n'existe pratiquement pas chez nous, malheureusement. Voilà, ces personnes peuvent mourir à cause des complications cardiovasculaires aiguës, mais cela arrive généralement sur un terrain prédisposé. Une malformation vasculaire cérébrale, une cardiopathie qui est susceptible de générer un trouble de rythme cardiaque lorsque la personne est soumise à un stress important. Donc ces personnes, si elles avaient fait éventuellement un check-up au départ, eh ben, peut-être qu'on aurait pu prévenir ce genre de complications.
Bien, docteur Yves Lubenga, pour terminer, quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer à nos auditeurs? Qu'est-ce qu'on peut retenir avant de terminer cette émission par rapport à la prévention des maladies cardiovasculaires?
En guise de conclusion, aujourd'hui, je dirais, la prévention des maladies cardiovasculaires impose que chacun sache quels sont les facteurs de risque cardiovasculaire qu'il a. Lorsqu'on sait ce qu'on a, et ben à ce moment-là, on sait comment prévenir les choses. Un exemple tout bête, il existe beaucoup de gens que nous voyons en consultation qui ne savent pas quelle est leur pression artérielle ordinaire. Donc, on a beaucoup d'hypertendus méconnus, on a beaucoup de diabétiques que l'on découvre déjà au stade de coma avec toutes les complications, on a beaucoup de patients qui ont des troubles de cholestérol mais qui ne l'ont jamais su, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais fait de check-up. Ils ne se font pas suivre sur le plan médical du moment qu'ils s'estiment être en bonne santé. Je pense que la grosse erreur, c'est justement de se croire en bonne santé et de se définir comme un sujet sain par soi-même. De notre côté, il y a des facteurs de risque cardiovasculaire qui sont modifiables et évitables. La consommation d'alcool, la consommation de tabac, ces genres d'addictions peuvent être arrêtés soit seuls par des personnes fortes, mentalement et psychologiquement, soit avec l'aide des personnels médicaux consacrés, de manière à ce que ces personnes addictes ne puissent pas développer des événements cardiovasculaires ultérieurement. Voilà.
Bien, docteur Yves Lubenga, spécialiste en cardiologie et en médecine interne, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir participé à cette émission de La Vie au quotidien pour nous parler de la prévention des maladies cardiovasculaires. À la prochaine.
Merci jeudi, au revoir.
Au revoir.
Au Capi Service.
Au Capi, Radio Capi.
Le conseil du jour.
Le sucre agit de manière très efficace sur la conservation des fleurs. Il suffit d'en ajouter une pincée dans l'eau pour nourrir les tiges et leur éviter de se décomposer. Au bout du 7e jour, vos fleurs devraient être complètement épanouies et durer encore quelques temps. Le charbon noir marche aussi pour les fleurs. Placez-en un petit carré dans votre vase et cela empêchera l'eau de croupir. C'est une astuce pratique quand on oublie d'échanger l'eau des fleurs. Pour conserver ces fleurs plus longtemps, il est aussi recommandé de couper leurs tiges en billets d'environ 1 ou 2 cm tous les 2 jours. Une opération qui permettra à la sève de mieux circuler et à vos fleurs de rallonger leur espérance de vie. Vous pouvez aussi placer vos fleurs naturelles au frigo dans leur vase avant d'aller dormir. Grâce à l'action du froid, elles absorberont mieux l'eau. Une astuce de grand-mère qui fait aussi ses preuves, c'est les bicarbonates des soudes. Comme pour les sucres, une seule pincée suffit pour que les fleurs tiennent au moins 10 jours. Pour que les résultats soient au rendez-vous, pensez à bien diluer les produits dans l'eau avant d'y placer vos fleurs. L'eau de Javel est aussi connue pour ralentir la prolifération des bactéries et la décomposition des fleurs coupées, mais elle doit être utilisée dans une moindre mesure. Au-delà d'une ou deux gouttes, vous risqueriez d'intoxiquer vos fleurs. N'oubliez pas que les premiers gestes sont également très importants lorsqu'il s'agit de conserver ces fleurs coupées. Utilisez un vase bien propre et assurez-vous que l'eau est à température ambiante et non glacée.
Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi cette émission consacrée à la prévention des maladies cardiovasculaires. Et c'est par ici que nous mettons un terme à ce programme. À la technique, c'était Polydor Bansunga Tati Mapuku a assuré la réalisation. Marcel Ngombo à la coordination. Au micro, Jody Daniel Keshama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.